Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, celle qui est située à Vichy, 1 rue de Paris, sur 92.4. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde en français, 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous écoutez actuellement, en ce dimanche, il est 13h, le numéro 1274 d'Invino Sud Radio depuis la création. C'était il y a 20 ans, 20 ans.
Vous savez que c'est la cylindrée de la dernière moto que j'ai achetée, ça.
C'est un bon.
Non, mais ça a aucun rapport.
Ah non, aucun
on
rapport.
S'en fout complètement.
Absolument,
non
je vous le confirme, David.
Vino. Et aujourd'hui, donc, vous allez écouter un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure, Armand Heitz, qui est vigneron en Bourgogne. Il est également producteur de bière et puis éleveur de vaches de boutons. C'est un personnage. Et le Vino Quiz également, pour gagner un coffret gourmand offert par Invino Sud Radio. À mes côtés pour nous accompagner, comme hier, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Et David Cobold, que vous avez entendu, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Eh bien bonjour Alain. Alors, et tout le monde.
Bien sûr, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir, le grand plaisir d'ailleurs, d'accueillir Stéphanie et David Monnier, propriétaires du domaine La Buissonnade. Nous sommes dans la Vallée du Rhône. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Alors David, racontez-nous, vous êtes issu d'une famille de vignerons depuis plusieurs générations, depuis quand exactement ?
Depuis très longtemps en fait, mon arrière-grand-père avait des vignes, mon grand-père avait des vignes, ensuite c'est mon oncle qui a pris la propriété en main, et moi je l'ai repris en 2020.
En 2001, c'est ça ?
2001, j'ai repris, et j'ai restructuré tout le vignoble petit à petit avec mon épouse, et avant nos 50 ans, on a décidé de faire une cave en 2018.
Oh, génial. Stéphanie, vous étiez dans le vin avant de tomber folle amoureuse de David. D'ailleurs, est-ce que vous êtes toujours amoureuse ?
Oui, ça va.
En plus, ça va pas du tout cette histoire.
Oh là, il y a du boulot à faire là.
Bon week-end les amoureux. Vous allez vous marrer cet après-midi.
Ouais. Ça se passe bien.
Vous étiez dans le vin avant ou pas avant?
Alors en fait, moi, ma grand-mère était vigneronne et ma maman, elle était boulangère. Donc ça a sauté une génération.
Génial,
donc moi, j'étais dans la comptabilité.
C'est important dans le vin aussi.
Ça, c'est très utile.
Ça peut servir, mais c'était pas une vocation pour moi. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait aimer le vin. Ma grand-mère m'a bien initiée au vin aussi. Et puis mon mari, qui était pareil, issu d'une famille de vignerons. Donc
vous avez un apprentissage sympathique. Quoi. Il est où le domaine d'ailleurs? Parce que c'est grand la Vallée du Rhône. Vous êtes où exactement?
Donc on est dans la Vallée du Rhône Sud, à Travaillant. C'est un tout petit village qui se situe dans le Plan de Dieu. C'est
Plan
une appellation Côte-du-Rhône Village, Plan de Dieu.
Ouais. Et si c'est proche de quelle ville, un peu plus connue?
Alors, Rasto et
pour
les crus.
Ouais.
Vaison-la-Romaine pour les touristes.
Donc, pour situer, on est entre Vaison-la-Romaine et Orange.
Et voilà. Orange, ouais.
Donc, pas trop loin de Châteauneuf-du-Pape non plus.
Stéphanie, c'est bien, mais alors, Hélène, c'est bien aussi.
Alors, cette grand-mère initiatrice au vin, quelle bonne idée elle a eue, vous a légué aussi quelques-unes de ses vignes. Et donc, c'est comme ça que vous avez en effet décidé de monter votre propre cave après avoir longtemps vinifié pour d'autres. Cette cave, ce domaine, vous dites souvent, David, que vous n'auriez pas pu le faire sans elle, elle au pluriel, parce que manifestement, il y a votre femme, peut-être sa grand-mère, et puis vos filles aussi.
Oui, c'est exact. Donc, il y a Stéphanie et puis qui m'a beaucoup aidé. Et dans notre passion, on a emmené nos deux filles, puisqu'elles ont fait des études toutes les deux dans le vin.
Donc Clémence et Camille.
Camille qui a fait un BTS Vitionneau, qui m'a rejoint, qui travaille avec moi, qui fait du tracteur, qui taille les vignes avec moi, qui adore ça. Et sa sœur, elle est œnologue, et en attendant de faire grossir...
C'est génial, ça. Et vous engueulez beaucoup en famille? Parce que là, c'est
chaud quand
même.
Ça arrive quelquefois, on n'est pas toujours d'accord.
Il y a plein de filles, en plus.
Les filles, elles sont souvent en demande. Et du
coup, de s'engueuler?
Non.
De prendre des décisions.
De prendre des décisions, de faire leur propre cuvée. Donc ça... Tout ça...
Ça discute.
Ça se discute.
Ouais. Hein. Et là, c'est occupé, non, sur quatre, trois femmes. C'est pas mal.
Moi, je trouve ça formidable, surtout que quand David dit qu'il ne pourrait pas vinifier sans elle, alors il y a les filles, les femmes du domaine, mais il y a aussi manifestement les libellules, qu'on appelle souvent des demoiselles dans le domaine des insectes.
Ça change des cochons hier.
Parce qu'il y a des libellules sur l'étiquette, mais ça s'explique parce qu'il y a plein de libellules là où vous êtes.
Oui, en fait, le nom domaine La Buissonnade.
Qui est très joli.
La Buissonnade, c'est le nom d'un ruisseau. Donc, de juin à octobre, ce ruisseau est rempli de libellules.
Il y a encore un peu d'eau dans vos ruisseaux, là?
Oui, un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance. Il y en a encore un petit peu. Et la libellule, chez nous, ça a trois significations. Cette première signification du ruisseau qui longe nos vignes et qui avait été créé par la génération du grand-père de David. La deuxième, c'est que en fait, c'est un nouveau départ dans la vie, puisqu'on a décidé de faire notre cave avant nos 50 ans.
Voilà.
Donc, c'est le symbole d'un envol vers un nouveau départ. Et on est dans une démarche biologique aussi, c'est la troisième symbolique.
Depuis 2018 déjà.
Exactement, quand on a fait notre première cuvée en 2018, la cuvée L d'ailleurs. Et la libellule représente aussi la biodiversité et tout ce dont on a besoin pour faire du vin.
David, il y a combien d'hectares aujourd'hui au total, toutes libellules confondues?
Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'hectares. Et donc on vinifie ça tranquillement dans notre petite cave, hein, en famille. Tout le monde prend une part de décision et ça se passe très bien pour
moi. Un jour, il y en a un qui décide à la fin, non?
Oui, oh ben c'est sûr, il y en a toujours un qui tranche.
Je n'ai pas dit qui, attention.
Alors, sur le domaine, combien de cuvées différentes sur ces 20
hectares? On a une dizaine de cuvées.
Ah oui, quand même.
Alors, moi, j'étais restée à 9, mais vous allez nous éclairer. Moi, j'étais restée à un Côte-du-Rhône village Sainte-Cécile. On va en parler parce que c'est une appellation très intéressante. Une Côte-du-Rhône village Plan de Dieu, 2 Rasto et 4 IGP Méditerranée.
Donc, oui, c'est ça.
On est bien.
Il y a beaucoup. Il n'y en a pas un peu trop, là. Une seule cuvée, ça suffit, non? On met tout ensemble,
en fait,
hop.
On fait des cuvées parcellaires. Donc, pour avoir l'identité de chaque terroir, on fait même de la coplantation pour avoir vraiment une identité.
Le complant, c'est quoi, David? À l'époque, on mettait tout le monde?
Oui, c'est ça. C'est, on met plusieurs cépages sur la même parcelle.
Exactement. Parce que dans la vallée
comme
du Rhône.
Comme autrefois, d'ailleurs.
Oui, dans la vallée du Rhône Sud, on est dans l'obligation d'avoir un cépage majoritaire, c'est le Grenache.
Oui.
Et un cépage améliorateur, entre guillemets, Syrah ou Mourvèdre. Oui. Et nous, on a choisi Mourvèdre.
Hélène?
Alors, je voulais revenir, oui, effectivement, sur cette appellation Côte-du-Rhône Village Sainte-Cécile. Parce qu'autant Plan de Dieu, maintenant, ça commence à être bien connu, autant Sainte-Cécile, c'est encore assez méconnu. Et c'est une très grande appellation.
C'est joli, quand même, hein, Sainte-Cécile aussi. C'est un joli nom.
C'est un joli nom. Et ça fait quand même 1370 hectares. Ça s'étend. C'est très étendu.
Mais oui. Cécile, hein.
C'est ça. Oui. Et c'est exclusivement en rouge. Et surtout, c'est une appellation comme de plus en plus dans la vallée du Rhône, et tant mieux, qui s'engage de plus en plus dans l'agriculture biologique. Il y a quand même 30% déjà des superficies qui sont en bio. Donc, c'est vraiment une appellation à découvrir.
C'est bien pour les libellules.
C'est très bien pour les libellules. Et alors, chez vous, c'est un assemblage Grenache et Mourvèdre. Votre Sainte-Cécile, à vous, elle est Grenache et Mourvèdre. Vous êtes également en Grenache et Mourvèdre sur votre premier Côte du Rhône, L, justement, le fameux L dont on parlait tout à l'heure. On va avoir du mal à tout citer, l'émission est courte. Mais vous avez également un 100% Caladoc sur lequel je voudrais qu'on revienne.
C'est parce quoi que ça?
Le Caladoc, c'est rare.
Alors, le Caladoc, c'est un mariage entre le Grenache et le Malbec.
Ah oui.
En fait, dans notre région, au moment de la floraison, on a des fortes variations de température ou un fort coup de mistral, comme on a fréquemment, la fleur va couler. Donc ça s'appelle la coulure et on perd du raisin. Avec ce Caladoc, on a plus de résistance. Ouais. Voilà. Et c'est un cépage qui est vinifié, qui peut être très gourmand.
Je pense qu'il y a un autre avantage, c'est d'abaisser le taux de sucre et donc l'alcool dans le vin fini. Le grand problème de Grenache, qui peut être un cépage absolument grandiose, c'est qu'il a tendance à monter très vite en sucre et en alcool. Et le croisement, le métissage avec le Malbec à apporter, il y a un autre métissage avec le Cabernet Franc qui s'appelle le Marcellin.
Oui,
c'est très bon ça aussi. La gamme de prix, ça va de combien à combien? Vos 10 cuvées, là, on se méfie. Attention, hein.
Non, c'est très abordable.
Voilà, ça va de 10 euros à 25 euros pour les cuvées exceptionnelles en rasto cru.
En rasto cru, quoi, c'est génial. Et ça peut vieillir, ça, un rasto cru, d'ailleurs, ou pas?
Bien sûr.
Oui. On a le potentiel pour garder le vin au moins 10 ans.
10 ans.
On travaille les vins de manière...
Pour les 20 ans d'Hélène Piau, quoi.
Oui. C'est ça, voilà. Allez, mais 25.
Est-ce que vous faites aussi un rasto VDN? Parce que c'est une appellation qui a les deux capacités.
Et justement, cette année, c'est les 80 ans du VDN, donc on aurait bien aimé en faire, mais on va déjà... commencé à développer nos deux premières cuvées, Gusta et Envol. Puis,
puis on verra après. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? C'est quoi votre domaine dans 5 ans?
Ben, dans 5 ans, j'espère que ma deuxième fille nous aura rejoint et qu'on aura grandi. Et puis, voilà.
Juste une dernière chose, température de service de vos vins rouges, à combien vous les servez?
Nous, en principe, on les met à 17 degrés.
17 degrés, c'est bien. On démarre à 17 ou on les met à 15 pour que ça monte
en fait,
un peu?
Voilà, on les met, ça dépend des moments. En ce moment, ça serait 17, mais en été, on est plutôt 15. À 15. Ouais. Et rien qu'en mettant dans le verre, on prend 2 degrés, pardon.
Minimum,
donc, minimum 2 degrés parce qu'il fait très chaud. Et...
Bon, ne changez pas, vous êtes vraiment parfaits tous les deux. Le domaine, la Buissonnade. En plus, le nom est très joli. Merci, bravo Stéphanie. Et David, merci aussi à Hélène et David Cobold. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour jouer et gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas qui est située à Vichy, par exemple, au 1 rue de Paris, sur 92.4. Et vous êtes très nombreux à nous écouter chaque week-end. On vous remercie. Et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, notamment le compte Insta Invino Sud Radio. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz, David.
N'est-ce pas? Donc le principe est simple. Chaque semaine, il y a une question. Comme cette émission s'appelle Invino, la question se penche sur la question du vin.
Bien, David.
Ouais. Et le vainqueur va gagner de très beaux cadeaux. Cet exemple de cette semaine, c'est un coffret gourmand offert par Invino Sud Radio. La question du ce week-end, comment se nomme la première cuvée de vin blanc élaborée par le château d'Aurillac dans le Médoc, le Haut-Médoc? Réponse A, le pan, pas P-A-O-N, un oiseau. Qui commence par un P, qui termine par un N.
Après, un deuxième oiseau.
Deuxième oiseau qui commence aussi par un P, qui termine par un N, le pélican. Troisième, donc c'est A, B, C. Le troisième, C, le perroquet. Ça finit par un T.
Absolument.
Oui. Donc vous optez
A, B
pour
ou C, quoi.
A, B ou C. Pour répondre, allez toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les très nombreuses bonnes réponses si vous avez écouté l'émission.
Merci beaucoup David Cobold. Nous accueillons maintenant
l'émission d'hier. D'ailleurs.
Absolument, oui, d'hier. Merci David. Nous accueillons maintenant avec beaucoup de plaisir et de bonheur Armand Heitz, qui est notamment vigneron en Bourgogne. Bonjour Armand.
Bonjour Alain.
Bah, alors un mot sur votre parcours là. Vous avez commencé à cultiver le Pinot Noir et le Chardonnay en 2012, c'est ça?
2013 pour le premier 2013. Millésime commercialisé.
Voilà. Ouais. Et la famille, elle vient d'où alors, la famille? Elle vient pas d'Alsace, hein?
Alors, Heitz, c'est d'origine suisse-alémanique, mais les vignes viennent du côté de ma mère, qui s'appelle Lochardet.
Voilà. Lochardet. Bon, alors, un mot sur votre parcours, vous êtes un garçon original, c'est le moins qu'on puisse dire, et je dis ça avec beaucoup de bonheur et sans flagornerie.
Pardon?
Vous êtes très original, racontez-nous votre parcours là. Vous faites plein de choses, vous avez de la
alors,
bière,
original,
vous cultivez, vous élevez des vaches.
Non, quand je me présente, je n'ai pas l'habitude de dire que je suis quelqu'un d'original, je dirais plutôt un paysan qui essaye d'avoir une attitude, une agriculture vertueuse et durable.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une diversité d'activités et chaque activité vient profiter à l'autre. Le fumier des vaches permet de fertiliser les céréales et avec les céréales, bon, on peut faire de la bière, voilà, ouais. Par exemple. Ou et avec la viande des animaux, on peut alimenter un resto.
Oui, tout est cohérent. Quoi, c'est
l'idée.
Hélène. Donc vous avez et des vaches, et des restos, et des céréales, et du vin.
Et des moutons.
Des moutons, moutons. Et des abeilles. Enfin ouais. Voilà, j'aime bien la nature.
Un château, vous avez un château aussi.
Aussi, voilà, mais les journées sont un peu courtes des fois.
Hélène Piau.
Alors, on va remettre un peu tout ça dans l'ordre parce qu'effectivement, là, ça part dans tous les sens. Alors, effectivement, Armand a hésité au début entre skipper et le vin. Et finalement, on est content que vous ayez lâché les bateaux et que vous ayez posé l'ancre entre la Bourgogne et le Beaujolais, là où vous êtes, effectivement. En effet, vous êtes quand même d'une famille qui est dans le vin depuis très, très longtemps.
Tout à fait, 1850 pour les...
Voilà.
Mais on n'a jamais mis en bouteille en revanche. Je suis le premier vigneron, vinificateur, embouteilleur de la famille.
Vous êtes donc le premier œnologue officiel.
Aussi, tout à fait.
C'est ça. Donc votre premier millésime en tant qu'œnologue de la famille, c'est 2012.
2013 pour la commercialisation. Voilà.
Ah,
j'étais là en 2012.
Ah, oui, mais 2012, le diplôme d'œnologue, 2013, la commercialisation.
Exactement.
C'est ça. Très bien. Vous avez démarré avec 5 appellations, Chevalier Montrachet, Maltrois, Clos des Poutures, Bourgogne Chardonnay, Bourgogne Pinot Noir.
Pas les pires de la Bourgogne.
Voilà. C'est ça. Hein, je pense que pour démarrer dans la vie, c'est pas mal. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a le domaine, il y a du négoce. Mais surtout, au fur et à mesure, vous vous êtes tourné vers la biodynamie Et vous publiez régulièrement des tribunes pour dire tout le mal que vous pensez des cahiers des charges trop stricts à votre goût de la Bourgogne et du Beaujolais, et puis je sais pas, est-ce qu'on peut dire l'ineptie de la biologie, comment on peut dire?
Alors j'ai commencé en biodynamie en pensant que c'était vraiment la manière la plus durable de prendre soin des vignes en se posant le maximum de questions. Alors oui, on se pose beaucoup de questions. Mais on utilise toujours son tracteur, on utilise toujours des pesticides, on utilise toujours des engrais. Et en fait, moi, je me suis dit, mais si je continue comme ça pendant 20 ans, à l'époque où j'ai compris ça, je me suis dit, bah, on commençait à avoir les premiers étés caniculaires. Et bah, dans 20 ans, il n'y a plus de vignes en Bourgogne. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais ça, c'est pas un cercle vertueux si je dépends d'autant de choses. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais comment ils faisaient avant, quand il n'y avait pas de tracteur, quand il n'y avait pas de pesticides? Et en fait, bah, je me suis inspiré de la permaculture, et c'est aujourd'hui le fil rouge que je souhaite mettre pour prendre toutes mes décisions. Et en fait, Steiner, avant de dire d'entreprendre des méthodes biodynamiques, il dit « ayez une ferme autonome et vertueuse ».
Oui, il y a tout à l'intérieur. Voilà. Quoi. David Gobard, vous en pensez quoi là? Steiner, c'était un grand démocrate. Hein.
Je déteste ce type-là. Tout ce qu'il a écrit, c'est un ramassis de conneries.
Bah, sauf c'était... au début, quand il dit « ayez une ferme autonome vertueuse ». C'est
part,
le premier truc. Alors après, il part dans ses croyances.
Il y a une part de bon sens paysan. Après, il y a plein de délires. C'était un raciste avéré. C'est quelqu'un qui comprenait absolument rien à la science. Quelqu'un qui est capable d'écrire qu'une femme blanche qui lit un roman nègre risque de faire un enfant mulâtre. Ça veut dire que sa notion de la biologie est plus qu'approximative. Mm-hmm. Et le reste est à l'avenant.
Donc, bon, allez, on revient sur les cochons.
Aucun respect pour M. Steiner.
J'en ai pas encore des cochons.
Alors, on revient sur, Armand, sur justement la partie élevage. C'est important, on va quitter le vin quelques instants. Donc, vos vaches, il y en a combien? Et elles viennent d'où? Et puis, les moutons aussi.
Alors, c'est une ferme assez classique qui a vécu le développement à partir des années 60. Je me suis associé il y a 3 ans avec cet éleveur. Et on est sur 200 hectares. 40 hectares de céréales, et le reste en pâture, prairie permanente. Donc 200 vaches avant vélage, on est sur des salers et des charolaises. Voilà, l'intérêt d'avoir un croisement, c'est le même que de croiser ou d'avoir différents cépages. Et puis des moutons, donc Suffolk, Charolais.
Voilà. Oh là là.
Il y a forcément des poules quelque part là-dedans aussi, non?
Alors c'est le père de mon associé qui a conservé cette diversification, mais faire plein de choses, c'est
intéressant. Et le phénomène vegan, vous aimez les vegans, là, tous ces gens bizarres là?
J'adore, surtout quand il y a des incohérences flagrantes. Voilà, moi j'aime beaucoup les choses cohérentes, durables.
Ouais.
Et souvent, quand on regarde un cercle vertueux, il y a toujours une vache. Hein, quand on regarde un cercle vertueux, il y a toujours une vache qui broute et qui fait du fumier sur le sol. Ça fait partie du cercle vertueux, quoi. Donc,
Hélène,
pour moi, c'est pas durable.
Et c'est absolument la base. Donc, effectivement, on peut venir découvrir vos deux domaines, parce que finalement, ça fait deux domaines, un en Beaujolais, un en Bourgogne.
Voilà, puis on peut aller à la ferme aussi si vous avez envie de voir des vaches. Donc il y a différents endroits.
Elle adore les vaches.
On peut venir vous voir. Et alors le restaurant chez Armand, lui, il se situe au château qui est à Marmande.
Mimande.
À Mimande, oui.
Marmande, c'est ailleurs.
Oui, à Mimande.
71, donc on est juste à côté de Puligny et de Chassagne. On est à 10 minutes de ces grands villages et j'ai eu une opportunité de reprendre ce patrimoine il y a 2 ans maintenant. Et donc chambre d'hôte, événementiel, mariage et puis aussi
divorce.
Restaurant. Pas du tout.
Non. On peut fêter son divorce.
Une fois sur deux, voilà. Oui, c'est vrai. Et donc le restaurant, c'est pour pouvoir distribuer ma viande, tout simplement.
Et puis vos vins également.
Et vos vins, parce que vous en êtes à 13 appellations aujourd'hui. Alors on va y revenir au vin. On est quand même
in vino.
Donc ces 13 appellations, elles se divisent.
Un petit peu plus. Oui.
Un peu plus
une
maintenant.
Une quarantaine de.
Ah oui.
Oui. Peut-être.
Il faut dire que ça va vite en Bourgogne.
Oui, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Ouais.
Le temps que j'actualise mes fiches, on est passé de 13 à 40.
Je travaille la nuit aussi.
Ça doit être ça. Donc avec des vignes en propre et puis donc du négoce, comme on le disait tout à l'heure.
20 hectares sur la Côte d'Or, principalement Chassagne, Pommard, Meursault, Volnay et Beaune. Et puis du négoce, Côte de Beaune essentiellement, et Côte de Nuit aussi un petit peu. Et puis Beaujolais, 8 hectares.
La gamme de prix, ça va de combien à combien sur le Beaujolais et Bourgogne, les deux?
10 à 1 000 euros.
Ouais. 10 à 1000 euros. Quoi. Donc, on fait une moyenne. Ben, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on trouve plein de choses intéressantes.
Bah, c'est ça, moi je trouve ça plutôt sympa dans l'absolu parce qu'effectivement, quelle que soit l'envie du moment, qu'on achète une bouteille qu'on n'achètera qu'une seule fois dans sa vie ou qu'on ait envie de se faire plaisir en pique-nique, il y a de tout. Donc c'est plutôt très sympa.
Et votre côte de bœuf, dans
un pique-nique à 1000 euros, c'est pas tous les jours.
Oui, c'était plutôt l'inverse à laquelle je pensais
Marianne,
en fait.
David, vous avez également vos viandes, elles sont servies donc au restaurant.
Donc, exactement, voilà. Donc, l'idée, c'est l'animal qui dicte vraiment la carte. Et donc, on change tous les jours ou même pendant le service. Quand il n'y a plus de côte de bœuf, il n'y en a plus. Voilà.
Hélène.
Et on peut acheter vos vins également donc, au restaurant, un peu partout, dans vos différents endroits.
Tout à fait.
À la ferme aussi. Je peux aller voir une vache et acheter du vin.
Exactement.
On peut aussi faire l'inverse, acheter une verre, une vache et puis boire le vin. Quoi, c'est ça.
Oui, c'est dans un sens ou dans l'autre. Absolument. Vous êtes également à la pointe de la plantation de plein de cépages.
Tout à fait, ouais, une dizaine et un qui est interdit au domaine.
Lequel ?
Le Noah.
Ah oui, le Noah.
Moi, je ne voulais pas le dire à l'antenne, je vous ai laissé le dire. Hein.
Non, mais c'est bien, vous avez le fisc qui débarque demain matin. Donc demain matin, vous avez le temps de vous organiser pour les planquer.
C'est uniquement destiné à ma consommation personnelle.
Absolument. Bon, merci beaucoup, Armand. Vous avez un site internet, une adresse pour aller découvrir tout ce que vous faites. C'est super ce que vous faites. Bravo, en tout cas.
Merci beaucoup.
C'est armandaids.com. Donc,
comment ça s'écrit, AIDS ? Parce que je ne suis pas alsacien, attention. Hein.
H-E-I-T-Z.
Très bien, merci également à vous, Hélène Piau, merci à David Cobol, à Stéphanie et à David Monnier, un couple formidable, une belle histoire de famille également, les amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Ils sont très nombreux. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Insta. Et on se retrouve samedi prochain, ça sera 13h précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.